Comme chaque matin, Mortimer avait demandé la date. On était le 29 novembre. Le Parlement devait donc se trouver réuni et le prisonnier s'attendait à comparaître. Il connaissait assez la lâcheté des assemblées pour savoir que nul ne prendrait sa défense, bien au contraire. Lords et communes allaient se venger avec empressement de la terreur qu'il leur avait si longtemps inspirée. Le jugement avait déjà été prononcé dans la chambre de Nottingham. Ce n'était pas à un acte de justice qu'on allait le soumettre, mais seulement à un simulacre nécessaire, une formalité tout exactement comme lors des condamnations naguère ordonnées par lui. Un souverain de 20 ans, impatient de gouverner, et de jeunes lords, impatients d'être les maîtres de la faveur royale, avaient besoin de sa disparition pour être sûrs de leur pouvoir. Ma mort pour ce petit Édouard est l'indispensable complément de son sacre. Et pourtant, ils ne feront pas mieux que moi. Le peuple ne sera pas davantage satisfait sous leur loi. Là où je n'ai pas réussi, qui donc pourrait réussir? Quelle attitude devrait-il adopter pendant le simulacre de justice? Se faire suppliant comme le comte de Kent? Battre sa coulpe, implorer, offrir sa soumission, pieds nus et la corde au cou, en confessant le regret de ses erreurs? Il faut avoir grande envie de vivre pour s'imposer la comédie de la déchéance. Je n'ai commis aucune faute. J'ai été le plus fort et le suis resté jusqu'à ce que d'autres plus forts pour un moment m'abattent. C'est tout. Alors, l'insulte? Faire face une dernière fois à ce parlement de moutons et lui lancer « J'ai pris les armes contre le roi Édouard II, mes lords. Lesquels d'entre vous qui me jugez ce jour ne m'ont pas suivi alors? Je me suis évadé de la tour de Londres, mais lords évêques, lesquels d'entre vous qui me jugez ce jour n'ont pas fourni aide et trésors pour ma liberté? J'ai sauvé la reine Isabelle d'être tuée par les favoris de son époux. J'ai levé des troupes et armé une flotte qui vous ont délivré des Despenser. J'ai déposé le roi que vous haïssiez et fait couronner son fils. Qui ce jour me juge? Mes lords, comtes, barons et évêques, et vous, messieurs des communes, lesquels d'entre vous ne m'ont pas loué pour tout cela, et même pour l'amour que la reine m'a porté? Vous n'avez rien à me reprocher que d'avoir agi en votre place, et vous avez belles dents à me déchirer pour faire oublier par la mort d'un seul ce qui fut la besogne de tous. » Ou bien le silence, refuser de répondre à l'interrogatoire, refuser de présenter une défense, ne pas prendre l'inutile peine de se justifier, laisser hurler les chiens qu'on ne tient plus sous le fouet. Mais combien j'avais raison de les soumettre à la peur. Il fut tiré de ses pensées par des bruits de pas. « Voici le moment, » se dit-il. La porte s'ouvrit, et des sergents d'armes apparurent qui s'écartèrent pour laisser passer le frère du défunt comte de Kent, le comte de Norfolk, maréchal d'Angleterre, suivi du lord-maire et des shérifs de Londres, ainsi que de plusieurs délégués des lords et des communes. Tout ce monde ne pouvait tenir dans la cellule et les têtes se pressaient dans l'étroit couloir. « My lord, » dit le comte de Norfolk, « je viens d'ordre du roi vous donner la lecture du jugement rendu à votre endroit l'autre avant-hier par le Parlement assemblé. » Les assistants furent surpris de voir à cette annonce Mortimer sourire. Un sourire calme, méprisant, qui ne s'adressait pas à eux, mais à lui-même. Le jugement était déjà rendu depuis 2 jours sans comparution, sans interrogatoire, sans défense, alors que l'instant d'avant il s'inquiétait de la figure à prendre devant ses accusateurs. Vain souci. On lui infligeait une ultime leçon. Il aurait pu aussi bien se dispenser naguère pour les Despenser, pour le comte d'Arundel, pour le comte de Kent, d'aucune formalité judiciaire. Le coroner de la cour avait commencé de lire le jugement. « Vu que ce fut ordonné par le Parlement séant à Londres, immédiatement après le couronnement de notre seigneur le roi, que le conseil du roi comprendrait 5 évêques, 2 comtes et 5 barons, et que rien ne pourrait être décidé hors de leur présence, et que le dit Roger Mortimer, sans égard à la volonté du Parlement, s'approprie le gouvernement et l'administration du royaume, déplaçant et plaçant à sa guise les officiers de la maison du roi et de l'ensemble du royaume pour y introduire ses propres amis selon son bon plaisir. » Debout, adossé au mur et la main posée sur un barreau du soupirail, Roger Mortimer regardait le Green et paraissait à peine intéressé par la lecture. « Vu que le père de notre roi ayant été conduit au château de Kenilworth, par ordonnance des pairs du royaume pour y demeurer et y être traité selon sa dignité de grand prince, le dit Roger ordonna de lui refuser tout ce qu'il demanderait et le fit transférer au château de Berkeley, où finalement, par ordre du dit Roger, il fut traîtreusement et ignominieusement assassiné.
« Va-t'en, mauvais oiseau !»
cria Mortimer à l'étonnement des assistants, parce que le corbeau sournois venait de lui décharger un grand coup de bec sur le dos de la main.
Vu que bien qu'il fût interdit par ordonnance du roi, scellé du grand sceau, de pénétrer en armes dans la salle de délibération du Parlement séant à Salisbury, ceci sous peine de forfaiture, le Diroger et sa suite armée n'en pénétrèrent pas moins, violant ainsi l'ordonnance royale.